9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Agnès Martin-Lugan.
Bonjour Philippe.
Vous êtes romancière, votre histoire personnelle c'est un peu un conte de fées. Je peux raconter votre histoire, je vais la faire courte, vous êtes psychologue de formation. En 2013, publié en auto-édition sur la plateforme Amazon, notre premier roman, Les gens heureux lisent et boivent du café, très beau titre, succès phénoménal, puisque 8 ans plus tard, vous avez vendu en tout 3,5 millions d'exemplaires en premium et en poche. Alors on se gargarise souvent dans ce métier de chiffres ronflants, juste pour situer, à partir de 5,000 exemplaires vendus, un éditeur considère que c'est un succès. Vous, c'est 3,5 millions en 8 romans. Et voici le 9e qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle La Datcha. La Datcha, c'est pas la maison de campagne que vous êtes allé vous faire construire avec vos droits d'auteur. C'est quoi cette Datcha ?
La Datcha, c'est un hôtel dans le cœur du Luberon où arrive mon personnage principal, donc Hermine, à l'âge de 21 ans. C'est une jeune fille qui était en errance, qui alterne entre la rue et des squats, et qui rencontre sur son chemin Joe, un homme bourru à la voix rocailleuse, qui lui propose d'être femme de chambre dans son hôtel. Et elle découvre cet hôtel à 21 ans qui va l'aider à se reconstruire. Mais on reste pas très longtemps dans le roman à ses 21 ans.
Oh, alors quand même, on y reste quand même, parce que moi, quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'est-à-dire qu'au bout de la 100e page à peu près, j'étais très étonné. La règle pour une fiction, c'est celle-ci. Il y a des personnages, un objectif, un obstacle. Par exemple, Roméo et Juliette, ils s'aiment, l'objectif c'est de se marier, mais l'obstacle, les familles se détestent. Ou un polar, il y a un meurtre, l'objectif, découvrir le coupable, l'obstacle, le meurtrier s'est déguisé, il a fait ça la nuit dans un bois. Or, dans La Datcha, il n'y a aucun obstacle. Hermine, elle rencontre par hasard ce Joe. Il est un peu bourru, mais très sympa. Elle n'a pas de travail, il lui propose du travail. Elle n'a pas de maison, il lui propose un logement. Il l'emmène dans son hôtel de luxe, il la loge, il lui fait confiance, il la respecte. Aucune agression sexuelle d'aucune sorte. Joe est en couple avec Macha, c'est un couple modèle. C'est tout juste, si Hermine ne devient pas elle-même la patronne, je ne vais pas spoiler. En fait, vous racontez un conte de fées.
Un conte de fées avec des petits traumatismes antérieurs, en tout cas chez Hermine.
Ils arrivent page 107.
Oui.
Mais si on est page 106, on est dans un conte de fées.
Oui, tout va bien.
Voilà.
Tout va bien.
Et
tout va
ça
bien.
Tranche notamment avec les romans habituels.
Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des tranches de vie. Mmh. Avec des épreuves plus ou moins importantes à traverser, et puis souvent quand même des problèmes beaucoup plus intérieurs à régler pour le personnage principal. Enfin, il y a toujours des choses qui sont inconscientes,
ouais.
Et c'est vers ça que j'aime amener mes personnages.
Alors ça arrive page 106, on découvre qu'Hermine s'appelle pas tout à fait exactement Hermine.
Vous parliez de la petite fille.
Bien sûr.
Voilà. Ouais, la petite fille.
Voilà.
La petite fille qui était Hermine et qui a été abandonnée par sa maman à l'âge de 8 ans.
Voilà. Je peux raconter ce qui s'est passé ou
oui,
je spoil
oui.
trop.
Non.
Voilà. Vous écrivez, des fois, sa maman, quand elle est petite fille, des fois, sa maman rentrait avec un monsieur, jamais le même, et allait enfermer la petite fille à clé dans une pièce en lui disant « Je veux pas t'entendre, sinon tu t'en prends une ». Alors la petite fille se bouchait les oreilles pour ne pas entendre les drôles de bruits ou les cris. Et donc on comprend que cette petite fille a été placée et que c'est elle qui va devenir Hermine. Mmh. Vous avez été psychologue, vous avez travaillé auprès d'enfants.
Oui.
Ce sont des cas que vous avez connus ?
Pas celui-ci. Mmh. J'ai été évidemment confrontée à la souffrance des enfants placés, maltraités, ou avec des parents qui n'avaient pas les facultés de s'occuper correctement d'eux. Et c'est vrai que c'est, la souffrance de ces enfants-là, elle est innommable, en fait.
Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce personnage et dans ce roman de ce que vous avez appris quand vous travailliez auprès de la petite enfance ?
Si vous voulez, quand je l'ai écrit, ce chapitre, j'étais vraiment dans la tête de la petite fille. C'est-à-dire qu'Hermine m'a caché très longtemps, en fait, toute cette séquence autour de ses 8 ans. Je savais qu'il y avait, quelque chose qui avait été terrible pour elle dans son enfance. Et puis, il y a un moment, parce que j'entretiens des conversations avec mes personnages.
J'ai compris, là, je suis en train de me dire, tiens, elle est en train de parler de quelqu'un qui n'existait pas, comme s'il existait en vrai.
Oui, oui, c'est vraiment le rapport que j'entretiens avec mes personnages. Et c'est vrai qu'Hermine, il y a un moment, je lui ai dit, écoute, il va falloir que tu m'expliques, il va falloir que tu me dises. Et la petite fille, elle est sortie, en fait. Ça pouvait pas être Hermine qui racontait, ça devait être la petite fille. Donc, si vous voulez, j'étais dans la tête de la petite fille qui racontait, finalement, ce qui s'était passé avec sa maman. Et fatalement, voilà, moi j'ai des souvenirs de mon exercice professionnel avec des lieux, les salles de rencontres entre les enfants et les parents, voilà.
Agnès Martin-Lugan, je vais présenter quelqu'un qui existe en vrai, mais je ne sais pas comment c'est dans sa tête. C'est Hélène Manarino, elle va nous dire comment c'est dans la vôtre. C'est le portrait inattendu dans un instant, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec la romancière Agnès Martin-Lugan, La Datcha, ça vient de sortir, c'est chez Michel Lafon. Je le disais, il faut attendre la page 106 pour découvrir des choses sur votre héroïne. Il faut attendre 10h23 pour découvrir des choses sur vous. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Agnès Martin-Lugan.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors petite, vous adoriez vous exprimer sur les murs de la cage d'escalier. Avec des mots, des dessins. Vos parents avaient donc laissé un mur en plâtre vide pour que vous puissiez vous exprimer.
Ce matin,
je vous propose de repartir de ce mur blanc et d'écrire ensemble, finalement, les meilleurs souvenirs de votre vie. Le premier dessin de ce mur serait sûrement peut-être votre collection de timbres que vous n'avez jamais vraiment réussi. Postman Pat, ce dessin animé de la BBC que vous adoriez regarder. Ou encore une mouette en bois accrochée au plafond que vous aviez dans votre chambre.
Ah oui. Je l'avais oublié, elle.
Ouais. Ah non, elle vous a touché au cœur.
Oui.
Agnès Martin-Lugan, cette page blanche a commencé évidemment de s'écrire avec vos deux premiers compagnons, votre premier doudou, Sourisette, et le deuxième, une vache qui louchait et qui s'appelait Cota.
Voilà. Il y a toujours des quotas de vaches qui louchent.
Mais l'un de vos plus beaux dessins, c'était avec Olita, votre chienne, avec qui vous étiez totalement inséparable. D'ailleurs, quand vous avez fait vos premiers pas, elle se mettait devant vous pour faire attention à ce que vous ne tombiez pas.
C'est vrai.
Agnès Martin-Lugan, l'expression « oui », mais ce qui vous caractérise aussi, c'est l'aventure. Même si petite, vous n'aimiez pas avoir du sable dans vos chaussures, donc vous gardiez toujours vos petites chaussettes.
Et super info, tout le monde adore avoir du sable dans les chaussures.
Mais pas Agnès.
Non.
Ah ben voilà.
Non.
Vous avez fait du scoutisme et on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes une vraie aventurière. Capable d'allumer un feu, sens de l'orientation impeccable, lecture des cartes routières, rien à dire. Vous savez surtout retirer les tics à la pince à épiler. Agnès Martin-Lugan, reprenons le cours de notre mur qui se remplit petit à petit avec comme grande caractéristique votre générosité, votre bienveillance, votre patience envers les autres depuis toujours. Comme ce jour à un spectacle de fin d'année à l'école, votre camarade ne se souvenait plus de la réplique de la pièce. Vous avez improvisé pour lui. Patiente également, au lycée, vous avez été capable d'aimer un jeune homme pendant 3 ans sans jamais lui dire.
Oui. Entre temps, il était devenu un ado.
Et vous êtes surtout une grande romantique, Agnès, surtout quand vous admiriez votre idole de jeunesse.
Il y a tout qui sort là.
C'est qui lui ?
C'est pour Kevin Costner, Robin des Bois.
Ah oui, grande fan de Kevin Costner.
Ah oui, c'est sûr.
Oui, parce que là, on entendait Bryan Adams.
C'est la musique du film.
Quelle belle chanson. Slow de 6 minutes. Et oui, il a fait.
Ça sent le vécu là aussi.
Évidemment. Kevin Costner qui a failli être détrôné par Kelly Slater, le surfeur que vous aimiez beaucoup. Alors bosseuse également, on va ajouter sur cette jolie fresque tous vos petits boulots d'été, femme de ménage au camping de Saint-Malo. Vous avez aussi vendu des sandwichs sur les Champs-Élysées. Mais Agnès, vous aimiez surtout refaire le monde avec vos amis, notamment au bar Le Jazzy. Enchaîner les cafés servis par Jeff, le super serveur.
Qui est juste là.
Vous aimez faire la fête aussi, surtout en face de en fac de psycho à Rennes, où vous vous êtes déguisé un jour en.
Non. Vous étiez laquelle ? En Spice Girl ?
Oui. Alors je peux pas dire laquelle j'étais. Je me souviens juste des couettes, du pantalon à paillettes et ouais.
Agnès Martin-Lugan va maintenant repartir d'un autre mur, un autre mur blanc. Exprimez toutes vos habitudes aujourd'hui, évidemment, quotidien ritualisé, petit déjeuner, toujours avant la douche, kiwi obligatoire pour tout le monde, gouttes de pépins de pamplemousse, du miel, très important, et le soir avant de vous coucher, un grand verre d'eau et toujours un déca, et oui. Alors Agnès Martin-Lugan, vous aimez votre organisation, votre petit bazar, parfois vous notez jamais de rendez-vous, vous avez tout dans la tête. Vous détestez perdre les choses, cela vous procure un sentiment d'abandon, vous avez le verre aussi. Vous n'aimez pas déranger les gens à tel point que vous détestez appeler un restaurant pour réserver de peur de les déranger pendant le service. L'imperfection.
Comment vous faites alors ?
L'imperfection vous plaît, la spontanéité aussi, la persévérance, le travail acharné, peur de décevoir, souvent, ce qui rend toujours les gens finalement fiers de vous. Vous avez besoin de vous lâcher, vous pleurez une fois par semaine, les larmes réparatrices. Alors Agnès, on a envie d'écrire, de compléter ce mur blanc avec vous, sans jamais s'arrêter finalement, comme vos livres, que l'on n'a jamais envie de refermer.
Merci beaucoup Hélène
Manarino.
Merci beaucoup. Et donc vous avez fait des bons plusieurs fois, ça vous a touché.
Ah oui. non, il y a des petites choses comme ça qui reviennent. C'est non, c'est hyper touchant. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et la mouette, vous l'aviez oubliée.
Oui.
Incroyable. Quel talent, cette Hélène Manarino. Vous serez là demain, Hélène.
Évidemment.
Évidemment. Dans un instant, notre première indispensable, Eva Rock, qui revient et qui va nous faire découvrir une chanteuse de blues. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Agnès Martin-Lugan, La Dacha, son nouveau roman qui vient de sortir, c'est chez Michel Lafon. À la fin du roman, il y a une playlist que vous écrivez qu'en musique. Et donc, il y a toute la playlist. C'est trop long si on commence à parler de ça. On est là après-demain. Oui. Eva Rock, vous êtes là pour parler de musique également.
Si vous voulez, on parle de la playlist. Hein.
Non, on va en parler à la fin. Et également, on va parler de musique encore avec Laure d'Autriche. Mais d'abord, Eva, c'est un coup de cœur qui vient de vous pour un album qui vient de sortir.
Bah oui, je pouvais pas ne pas parler de musique devant Agnès Martin-Lugan parce qu'effectivement, vous avez une playlist spécifique pour chaque livre. C'est souvent très rock, parfois même un peu métal. Et puis après, il y a des voix de femmes et je voulais vous en faire découvrir une voix qui respire le blues et la soul.
Première qualité, c'est singulier.
Oui,
qui est-elle?
Et ça fait un peu de lumière aussi dans cette période anxiogène. Elle s'appelle Valérie June. Il paraît que c'est la chanteuse préférée de Bob Dylan. Bon, en tout cas, c'est une Américaine du Tennessee. Elle a 39 ans et elle sort donc son nouvel album qui est intitulé Moon and Stars, avec un sous-titre magnifique, une ordonnance pour les rêveurs. C'est une artiste qui célèbre à travers ses chansons, la nature, les étoiles, une forme de spiritualité qu'il apporte en fait depuis qu'elle est enfant. Son papa était promoteur de chanteur de gospel et Valérie June, elle a beaucoup fréquenté canter les églises, la preuve avec ce titre Call Me a Fool. Call me a fool.
Eva, qu'est-ce qui vous a séduit dans l'univers de cette artiste?
Alors, évidemment, sa voix, que vous venez de l'entendre, avec des variations de voix incroyables. Voilà. C'est un peu étrange, je le reconnais, c'est un peu original, mais voilà. Cette originalité-là, je l'aime beaucoup. Sa musicalité aussi, je parle sous le contrôle de Laure d'Autriche. Elle est d'ailleurs multi-instrumentiste, Valérie June, et ça s'entend. Elle n'hésite pas à utiliser plein d'instruments différents dans ses titres, des violons, un orgue, des flûtes indiennes. Et puis, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans cette musique, elle nous transporte ailleurs. Alors je sais pas très bien où, mais en tout cas un univers dans lequel on est bien. Et évidemment il y a ces textes, des textes où la poésie et la politique se rencontrent, notamment dans le titre qui suit. Ça s'appelle Smile. C'est une chanson en hommage à deux personnalités qui l'ont marqué. John Lewis, qui était une icône de la lutte pour les droits civiques, qui est décédé l'an dernier, et Sister Peace, une moine bouddhiste. Moi, je trouve que quand on l'entend, eh ben, on smile, voilà. On sourit. Voilà. Pour Valérie June, la meilleure arme contre le racisme reste le sourire, dit-elle, car même si on me hait, on ne peut pas prendre ma joie. Et elle nous en donne beaucoup de la joie. Ça s'appelle Moon and Stars et ça vient de sortir chez Concord Universal. Alors, je ne sais pas si ça vous inspire, Agnès Martin-Lugan, mais moi, je mettrais bien ça dans mes oreilles pour écrire. Hein.
Ouais. Oui, oui, non, puis ça embarque complètement. Enfin, peu importe, que ça soit la dernière ou même celle d'avant, enfin, on est transporté vraiment ailleurs. Quoi. C'est
incroyable. Vous pouvez le mettre dans la playlist, qu'à la fin du livre, montrer sur la caméra d'Europe1.fr, il y a la playlist de chaque morceau qu'elle a écouté.
Mais c'est génial.
Il faut le prendre dans l'ordre, c'est chronologique.
Oui, parce que chaque scène a son morceau qui lui est dédié.
Ouais,
c'est la bande originale.
On s'est dit, Nicolas Souvent, le réalisateur, a écouté toute la playlist. Il en a sorti quelques-uns. On va entendre le premier Little May, 7 Hours. Et c'est toujours dans des styles très différents à chaque fois. Là, on peut s'imaginer en train d'écrire. Le suivant, est-ce qu'on peut écrire là-dessus? Ça, c'est très beau. Là, on est transporté.
Oui,
c'est Elodie, c'est un Italien, non? Je me trompe.
Oui.
Il fait des morceaux comme ça, des morceaux avec des pianos tout simples. Et puis Star Sailor, là, c'est un genre complètement différent. Oui.
Je vous ai connu plus rock, Agnès Martin-Lugan. Ouais. Hein.
Celui-là l'est moins, je le reconnais. Ouais, ouais.
Et vous vous souvenez à quelle scène correspond ce morceau? C'est quelle scène?
Ça, je ne vais pas la dire.
Pourquoi? Vous allez spoiler? Ah donc, c'est une scène importante alors?
Oui, c'est une scène importante.
C'est pas une scène où elle s'allume une clope?
Non.
Mince alors. Parce que j'ai lu tout le livre, mais justement, je sais qu'il y a un moment où il faut que je m'arrête. Vous me le direz hors antenne, je suis trop content de savoir cela. Dans un instant, notre deuxième indispensable musique avec Lord d'Autriche, sous le contrôle duquel nous parlons. Mais d'abord, musique, on continue en musique, c'est The Weeknd.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Save Your Tears, c'était The Weeknd. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Lord d'Autriche qui va nous faire redécouvrir la flûte enchantée dans une version évidemment très surprenante.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Agnès Martin-Lugan, la reine des playlists. Si vous voulez savoir dans quelle scène elle a écrit, dans quel état d'esprit elle a écrit chaque scène, il y a la playlist à la fin de ce roman, ça s'appelle La Datcha. Lord d'Autriche, bonjour.
Bonjour.
On vous a un peu entendu tout à l'heure. On va parler d'un opéra de Mozart, La Flûte Enchantée, qui sera donné samedi soir à 20h à l'Opéra de Vichy, retransmis gratuitement sur les réseaux sociaux, on entend quelques notes. Une flûte enchantée transportée dans le monde d'aujourd'hui, un monde monde hyper connecté.
Oui, cette flûte enchantée de Mozart, pour l'occasion, prend pour titre la flûte cyber enchantée. Alors, c'est la musique de Mozart qui sera jouée, mais les personnages sont tous reliés au monde d'aujourd'hui. Le metteur en scène Samuel Sonnet est féru d'informatique, agrégé de mathématiques, mais aussi chef d'orchestre, et il transporte cette flûte enchantée de Mozart dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui.
C'est cette quête du bien et du mal, en fait. C'est la quête de la vérité, c'est le combat entre le bien et le mal qui a 3 siècles, mais qui est transposé aujourd'hui, en 2021, dans le monde de la surcommunication, des fake news, des hashtags. Et on a notre personnage Tamino qui se retrouve sur les réseaux sociaux, qui découvre ce qu'est une fake news, qui ne sait plus faire la part entre le vrai et le faux. Et tout ça, c'est l'histoire d'origine, en fait, juste transposée aujourd'hui.
Voilà, l'oiseau Papageno de l'opéra, personnage de l'opéra, est ici un geek, il symbolise Twitter, les trois dames sont des influenceuses, la reine de la nuit utilise le côté sombre de la communication pour influencer les populations par exemple.
Et dans la mise en scène, il y a aussi un côté 2.0.
Oui, tout à fait, les personnages se parlent par le biais des écrans, ils sont contemporains, ils ont un téléphone à la main et un écran géant les oblige à circuler tout autour. Et puis 12 spectateurs partageront leur webcam. Samedi soir, on les verra sur l'écran géant, sur scène. C'est ce que détaille le metteur en scène Samuel Sonnet.
C'est l'aboutissement de plusieurs années de recherche théâtrale sur l'ultra-connectivité et en même temps, ce que ça apporte de terrible, c'est-à-dire le manque absolu de contact. On ne se parle plus que par des écrans. Ça a du bien parfois, ça a du mal aussi. Ça crée de la douleur et de la frustration. Et l'ouvrage parle de ça, ce qui va plaire tant à ceux qui adorent l'opéra depuis toujours que aussi aux adolescents qui ne connaissent pas forcément l'art lyrique et qui vont découvrir ce mélange de styles.
Et puis un mot sur la flûte enchantée, le dernier opéra qu'a composé Mozart,
oui,
c'est ça ?
Oui, alors Mozart mourra 6 mois plus tard, rongé par la maladie, et cet opéra a un succès immense à l'époque. Et je voulais vous parler d'un détail de cet opéra. On parle souvent de Salieri comme du rival de Mozart.
Le méchant.
On dit qu'il se détestait. Eh bien, c'est faux.
Ah bon ?
Le jour de la création de la flûte enchantée, en septembre 1791 à Vienne, Mozart l'écrit lui-même dans une lettre que j'ai retrouvée. Il va chercher Salieri en voiture pour l'emmener au théâtre voir la première représentation de la flûte enchantée de son opéra, et Salieri va lui faire énormément de compliments. Mozart est très content comme un petit garçon parce que Salieri est un homme important à l'époque, il a une place aussi très importante à Vienne. Évidemment qu'ils étaient rivaux dans le sens où Salieri a bien perçu le génie de Mozart, il y a chez Mozart quelque chose qui ne s'apprend pas, et évidemment avec Mozart on est dans une autre dimension, mais Salieri était aussi un bon compositeur, simplement personne n'est Mozart. Alors en tout cas, si vous voulez entendre cette flûte cyber enchantée, c'est samedi soir à 20h, opéra retransmis en direct et gratuitement sur les réseaux sociaux et sur le site de l'opéra de Vichy.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche, ça vous a intéressé ?
Oui.
Vous êtes transporté quand il y a de la musique, vous le dites, vous êtes parfois une autre. Il vous arrive vraiment de ressortir, Agnès Martin-Lugand, de votre table d'écriture en larmes ?
Oui. Oui, oui, quand j'écris, je ris, je pleure, j'ai l'estomac noué. Si mon personnage est va pas bien, enfin, je ressens toutes ces émotions, j'ai besoin
vous
de ça.
Vous avez même dit, je peux avoir des nausées.
Oui, ça m'est arrivé, oui.
Incroyable, comment ça se passe après en famille ? Ils disent maman est folle ?
Non, je crois qu'ils commencent à prendre un peu l'habitude.
Ils savent que vous l'êtes.
Et puis, j'ai coutume de dire qu'on est très nombreux finalement à table parce que, en plus, je parle. Mon mari est mon premier lecteur. Mm-hmm. Je lui parle de mes personnages. Il les connaît très bien. Il y a les enfants. Alors, les enfants ne lisent pas encore mes romans, mais quand ils rentrent de l'école.
Quand vous êtes à table en famille, vous parlez des personnages comme si c'était des gens qui existaient. C'est pour ça que vous dites on est plusieurs à table.
Oui, mais c'est aussi parce qu'on est nombreux dans ma tête quand j'écris.
D'accord.
Mais mes enfants, ils rentrent de l'école et ils rentrent dans mon bureau pour venir voir combien de pages j'ai écrites. Enfin, les romans, en fait, font partie de la maison.
Ah oui, vous n'êtes pas l'écrivain qui est calfeutré dans sa tour d'ivoire.
Non.
Vous dites cette phrase qui m'a interrogée. Je ne juge jamais mes personnages. Et je me suis dit, mais c'est quoi un auteur qui juge ses personnages ?
Je sais pas, mais en fait, moi, quand je dis ça, c'est parce que j'aime pas les jugements à l'emporte-pièce. Et j'aime, en fait, proposer une histoire, enfin c'est une situation. Parfois, voilà, alors des fois j'ai des commentaires, ah mais non, mais ça c'est pas bien, faut pas faire ça, faut... Mais attends, il faut dérouler l'histoire pour essayer de comprendre pourquoi le personnage a eu telle ou telle réaction. Et en fait, moi j'aime bien que les gens à la fin se disent, bah, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place finalement.
Merci beaucoup de nous avoir dit ça, et puis merci à l'Ordre d'Autriche, parce que moi j'étais persuadé que Salieri détestait Mozart et qu'il trouvait qu'il y avait trop de notes, donc c'est faux, c'est apocryphe. Bon, c'est dans le film.
Il y a des erreurs dans le film, il y a aussi des vérités, c'est sûr.
Mais on a créé ça pour les besoins de la tension du film.
Mais en tout cas, il ne se détestait pas, et Mozart était très content d'avoir le jugement de Salieri sur son œuvre.
Voilà, va Mozart, je ne te déteste pas. Merci l'Ordre d'Autriche. Agnès Martin-Lugan, vous restez avec nous. Culture Média, c'est la dernière ligne droite. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie d'Agnès Martin-Lugan, elle publie aujourd'hui son 9e roman, c'est chez Michel Lafond. Ça s'appelle La Datcha, il y a une espèce de sous-titre punchline. Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire, c'est comme si cet endroit-là avait écrit le livre que vous publiez. Il faut parler de votre conte de fées à vous. Vous avez une maîtrise en psychologie, vous n'aimiez pas spécialement écrire, ni même lire quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant. Et puis un jour, vous avez cette histoire en tête. Les gens heureux lisent et boivent du café, vous en faites un roman. Qu'est-ce qui se passe ensuite? D'abord, pourquoi vous mettez à écrire cette histoire?
Alors j'ai découvert le plaisir de l'écriture à la fin de mes études de psycho. Je me suis dit, un jour, j'essaierai d'écrire et de raconter des histoires. Et puis je suis devenue maman. Et là, ce souhait d'écrire est revenu. Et puis l'histoire des gens heureux a commencé à mûrir dans ma tête. J'ai travaillé dessus pendant 2 ans. Et j'ai eu envie que ça existe d'une manière ou d'une autre, d'assumer un peu ce défi personnel que je m'étais lancé.
Déjà, vous l'envoyez à des éditeurs?
Oui, je l'ai envoyé à des éditeurs.
4 envois, combien de refus?
4 sur 4. Il reconnaissait des qualités, mais pour autant rien qui suit. Donc je le retravaille et là je veux que ça existe. Donc en fait je décide de l'auto-publier en numérique
sur la plateforme Amazon.
Exactement.
Le et prix m'a fait sourire. Ouais. À quel prix?
Il était à 98 centimes, je crois. Ouais. Et puis je le mets en ligne fin décembre. Je demande à mes amis, ma famille d'être gentils
et de l'acheter.
Et de l'acheter.
Vas-y, t'as bien 98 centimes.
Voilà.
Achète.
Et puis en fait dès le premier soir je rentrais dans le top 100 d'Amazon. Et puis 3 semaines plus tard j'étais numéro 1 des ventes et Michel Lafond me contactait.
Incroyable. Et là vous êtes toujours publié par Michel Lafond. Le livre s'est vendu à 110 000 exemplaires dans son édition papier, 625 000 en poche, ça fait 735 000 exemplaires. Votre vie a changé depuis ce jour-là?
Je dirais, enfin, oui, parce que je peux écrire, je peux tous les ans proposer de nouvelles histoires aux lecteurs et j'ai la chance de faire un métier passion, d'être soutenue par ma maison d'édition. Ça a été une vraie rencontre aussi. Donc, d'un côté, ma vie a changé et en même temps, je suis toujours la même.
Toujours en famille.
Oui.
Avec la même famille. J'ai lu dans l'Obs, c'était en 2017 qu'un producteur de Hollywood avait racheté les droits de ce premier roman. Où en est le film? Où en est le projet?
Eh bien, ce projet n'existe plus parce que le producteur est celui qui a fait la une de l'actualité.
C'est pas vrai.
Si.
Weinstein?
Oui.
Vous l'avez rencontré?
Non.
Vous avez juste rencontré ses équipes?
Non, même, c'est même pas moi. Ça se passe par la maison d'édition, etc. Donc, voilà.
Le modèle de l'auto-édition, avant vous, c'était E.L. James qui a écrit 50 nuances de Grey. Son livre a été qualifié de mommy porn, du porno pour les mamans. Je vous en parle parce qu'il y a quelque chose que vous détestez, c'est qu'on vous dit que vous faites de la littérature de femmes. Pourquoi ça vous vexe?
Parce que pour moi, la littérature n'a pas de sexe, en fait. Moi, je propose des histoires. Alors après, les statistiques disent qu'en plus, ce sont les femmes qui lisent plus.
Elles lisent davantage que les hommes. Je vais même plus loin. Voilà. Les femmes lisent davantage que les hommes. Les femmes sont plus diplômées que les hommes. Les femmes ne sont pas moins intelligentes que les hommes. Si les femmes sont l'excellence, où est le problème de faire de la littérature pour femmes?
Non, mais parce qu'en général, quand on dit ça, c'est plutôt c'est plutôt une critique négative. C'est comme la littérature de gare ou voilà, c'est ça en
non,
fait.
Non, c'est différent. La littérature de gare, c'est un livre facile qui peut se lire dans un Paris-Tour en 55 minutes.
Oui, mais souvent,
voilà ce que ça veut dire. C'est péjoratif.
Il y a beaucoup de gens en fait qui rapprochent un petit peu. Alors là, si je suis vraiment, c'est de la littérature de bonne femme, ça veut pas dire grand-chose, quoi. En fait,
3,5 millions de livres vendus. Je parlais de vous avec Mathieu Béliard qui présente la matinale et beaucoup d'autres gens. Je lui dis, tu sais qui est Agnès Martin-Lugan? Il m'a dit, non, je sais pas. Pourquoi on vous voit pas davantage dans les médias? Ce sont eux qui ne vous invitent pas ou c'est vous qui refusez d'y aller?
Ce sont eux qui ne m'invitent pas.
Pour quelle raison, selon vous?
Quelle est l'explication à ça? C'est à eux qu'il faudrait le demander, en fait. Après, voilà, moi, j'ai mes lecteurs qui me soutiennent, qui me suivent, qui sont là. Et finalement, voilà, un auteur, qu'est-ce qu'il souhaite ? Voilà. Ce sont les lecteurs.
Hélène Manarino nous a montré une photo que lui a envoyée sa sœur. C'est l'étagère de oui. sa sœur. Elle a tous vos livres.
Oui.
Elle a dit « Tu salues Agnès ». Vous habitez à Saint-Malo ?
Oui.
Je vous en parle parce qu'avant, vous habitiez à Rouen.
Oui.
Et j'en parle parce que Saint-Malo, avalanche de touristes et de Parisiens à Saint-Malo, Libé raconte que vendredi dernier, il y a eu 400 personnes débarquées par un seul TGV. Oui. Le soir, 800 de plus, 1200 oui. personnes. Oui. Des gens partout, partout, partout. Plus des Airbnb, la ville qui est en train d'être dénaturée. Comment vivez ça ? Comment vivez cette présence au quotidien ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
C'est toujours particulier quand on voit la ville qui se remplit tous les week-ends. C'est, en même temps, c'est très paradoxal. D'un côté, ben, on est très heureux que la ville soit reconnue pour sa beauté, etc. Mais moi, c'est vrai que j'avoue que j'aime bien aussi l'hiver quand il n'y a pas grand monde et que, et que les remparts sont vides et que la plage est déserte.
On comprend ça très bien. On va se quitter en musique. C'est Kings of Leon. Ça fait partie de votre playlist.
Ah, ça, d'anciennes playlists. Ouais, ouais, il y en a eu. Ouais, ouais.
Si on a le droit de dire quelle scène a été écrite avec ça ? Non.
Alors, celle-là, ça date des gens heureux, lisez boivent du café.
C'est pas vrai.
Attendez, parce que j'ai pas le casque, alors j'entends pas bien là. Oui, c'est dans les gens heureux, lisez boivent du café.
Et il se passe quoi à ce moment-là ?
C'est la soirée du 31 décembre.
Ah bah oui, j'ai bien reconnu, mais voilà. Je me suis dit, ça sent quand même le 31. Allez hop, champagne, merci d'avoir été avec nous Agnès Martin-Lugan. Nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec du rugby. Le dernier match du tournoi des 6 nations sera sur France 2 évidemment. Nous serons avec le commentateur sportif Mathieu Lartaud et la journaliste Cécile Gray. Et puis deux humoristes, Inès Reg et Kevin Desbonnes pour Je te veux, moi non plus. Vous le connaissez eux, c'est elle qui demande mets des paillettes dans ma vie.
Ah,
voilà, juste après le flash, c'est Romanoff, ça fait du bien. Je vous dis à demain. Bonne journée sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.